Bonjour Sandrine Rousseau.
Bonjour.
Emmanuel Macron va se rendre aujourd'hui en Gironde où des feux de forêt ont détruit plus de 20 000 hectares au cours de ces 8 derniers jours. Au-delà du soutien qu'il va sans doute apporter aux pompiers, qu'est-ce que vous attendez du président de la République sur ce sujet?
Mais qu'il comprenne, qu'il voit les conséquences du réchauffement climatique et qu'enfin il en prenne la mesure. Parce qu'aujourd'hui on a l'impression qu'il est dans un déni absolument coupable, criminel de la situation telle qu'elle est. On a l'impression qu'il vit sur un monde imaginaire où tout va redevenir normal. Et où ces épisodes caniculaires, ces épisodes de sécheresse, il faut se souvenir qu'à Bordeaux, il y a de ça quelques jours, quelques semaines, il y avait des grêlons de la taille de balles de tennis qui tombaient parce qu'il y avait des orages d'une intensité rare. Donc en fait, on est dans la phase de dérèglement climatique, on est dans ces événements météorologiques extrêmes que dénoncent les climatologues depuis maintenant longtemps, qui nous disent que ces épisodes extrêmes vont s'amplifier. Et il paraît, parce qu'il y a plusieurs grands dirigeants qui l'ont dit, que avoir la banque qui se fondre, avoir les méga-feux, ils ont changé d'avis sur le réchauffement climatique. Moi, je pose le vœu aujourd'hui qu'Emmanuel Macron, en voyant les méga-feux en Gironde, prenne conscience de l'urgence d'agir.
Vous avez des propositions, vous avez des moyens à proposer pour éviter ou en tout cas limiter les feux de forêt?
Ah ben, en l'occurrence, il faut déjà limiter nos émissions de carbone, mettre le pied sur le frein, arrêter cette croissance carbonée qui nous emmène dans le mur et que l'on accélère non-stop. Et puis après, sur la gestion précise des feux de forêt, je précise quand même que cette zone était en proie à une sécheresse historique depuis maintenant plusieurs mois. Moi, je m'y étais rendue dans le cadre de la primaire des écologistes, c'est quand même vous dire, et on était déjà dans une situation critique. Et cette sécheresse a été complètement minimisée, c'est-à-dire qu'on n'a pas anticipé ce que cela pouvait générer. Évidemment qu'une sécheresse plus une canicule, on était dans une situation d'une dangerosité rare. Est-ce qu'il a été mis des moyens exceptionnels de pompiers pour prévenir tout départ de feu? Non. Est-ce qu'on a anticipé la possibilité de catastrophe? Non. Donc en fait, c'est une impréparation des services de l'État liée au déni de la situation dans laquelle nous sommes. Mais c'est toujours la même chose.
Si la France mettait en œuvre toutes les mesures que vous préconisez, est-ce qu'il y ferait moins chaud? Est-ce qu'il y aurait moins de feux?
Eh bien, en tous les cas, nous montrerions l'exemple au reste du monde, parce que là, aujourd'hui, personne ne prend ce chemin-là. Et là, il y a une urgence qui est que quelques pays, des fois, il suffit de très peu de pays, changent radicalement leur manière de faire, montrent l'exemple, et alors, ils servent de leader au reste de la planète. On a des COP21, on en est à la COP26. Aujourd'hui, aucun des accords internationaux que nous nous sommes fixés et respectés. Et il est urgent parce que la France a fait, et la patrie des droits humains, des droits de l'homme, de la Déclaration universelle des droits de l'homme, de la Révolution, parce que nous avons montré le chemin bien des fois dans notre histoire, nous devons le faire aujourd'hui sur la question du dérèglement climatique.
Vous pensez que si la France faisait tous ses efforts, elle deviendrait un modèle que s'emploierait à suivre immédiatement de nombreux pays dans le monde ?
En tous les cas, elle jouerait son rôle et je pense qu'en effet, elle pourrait servir de modèle et je crois que tout le monde attend cela. Toutes les sociétés civiles partout attendent ça. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nous en souffrons en Aquitaine, mais dans tous les pays, les populations civiles souffrent du réchauffement climatique. Même dans les pays les plus riches, souvenons-nous l'année dernière, en Allemagne, il y a eu 200 morts liées à des inondations en plein mois de juillet. Donc ça n'épargne personne et évidemment, les pays les plus pauvres sont en première ligne de ce réchauffement et des conséquences sur leur population. Donc tout le monde attend ça. Il suffit qu'en fait, il y ait une espèce de déclencheur, et on attend ce déclencheur, la France pourrait l'être.
La responsabilité des écologistes de Gironde, qui avaient refusé en juillet dernier des mesures réclamées par les pompiers pour précisément éviter des feux de forêt, a été pointée ces derniers jours, en particulier sur les réseaux sociaux. Est-ce que les écologistes ne sont pas parfois un peu trop conservateurs ?
Alors déjà, ça n'est pas la responsabilité des écologistes, c'est la gestion d'une forêt avec une espèce d'empilement des responsabilités.
Avec le soutien d'une sénatrice écologiste.
Oui, mais avec un empilement des responsabilités, mais il y avait aussi le soutien d'une députée LREM, qui bizarrement, ça fait pas la une des journaux. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, on doit garder nos espaces naturels, et il y a des organisations non gouvernementales, des ONG, des associations environnementales qui disent qu'on devrait réserver 10% de notre territoire de manière totalement vierge, c'est-à-dire sans intervention humaine, et laisser la nature se régénérer totalement, de sorte qu'elle se recrée des zones humides et une forme d'écosystème équilibré. Mmh. Et que comme l'homme n'interviendrait pas, eh bien ce seraient des zones qui seraient protégées des feux des interventions comme ça. Donc oui, il nous faut revoir la gestion de ces espaces qui ne peuvent pas être comme avant, et notamment on doit anticiper le risque, mais anticiper le risque, ça ne veut pas forcément dire les anthropiser davantage, c'est-à-dire ça ne veut pas forcément dire mettre la main de l'homme encore plus que ce que c'est actuellement, ça peut vouloir dire au contraire les laisser vierges.
Le texte sur le pouvoir d'achat qui est en discussion à l'Assemblée nationale depuis lundi est pour vous l'occasion de rappeler l'impérieuse nécessité de prendre en compte cette question climatique, cette question environnementale dans toutes les décisions politiques. Vous accusez le ministre de l'économie Bruno Le Maire d'être dans le déni. Qu'est-ce que vous lui reprochez précisément ?
Mais de ne rien comprendre à la situation telle qu'elle est. Dans le projet de loi pouvoir d'achat, il y a des articles 12 jusqu'à l'article 20, la possibilité de relancer les centrales à charbon, la possibilité de faire un terminal méthanier au Havre pour importer du gaz de schiste américain.
Ça, c'est pour répondre à la crise de l'approvisionnement
non,
en énergie,
pour,
non ?
Non, c'est pour répondre à notre ébriété et à notre dépendance énergétique. C'est pour continuer notre dépendance énergétique. Ça sert à ça, ce terminal méthanier.
Mais là, il y a une urgence peut-être liée à l'approvisionnement et
urgence,
à la crise de la guerre en
L'urgence, elle est de changer radicalement nos modes de vie. C'est ce que dit le GIEC. Il y a des centaines de chercheurs qui travaillent sur le rapport du GIEC, c'est-à-dire du groupement international des experts sur le climat. Des centaines de chercheurs. Ils disent maintenant il faut agir de manière radicale. C'est eux-mêmes qui posent ce mot que moi j'avais posé lors des campagnes présidentielles et qui m'avaient été en reproché, ils le disent, on a 3 ans pour agir, 3 ans, donc maintenant il faut le faire, c'est pas en construisant un terminal méthanier dont on sait qu'évidemment il va être effectif pendant 10, 20, 30 ans et qu'on va dépendre de cette énergie, ce gaz de schiste qui quand on allume un robinet aux États-Unis dans les zones d'exploitation peut prendre feu parce que ça émet du méthane, la fracturation hydraulique émet du méthane, donc vraiment mais c'est à l'inverse de tout ce que l'on doit faire, maintenant on ne peut plus se permettre de faire ça aujourd'hui dans la situation dans laquelle nous sommes.
Mesures d'urgence qui sont possibles, qu'on peut prendre pour répondre là à la crise de l'énergie.
Alors oui, il y a des mesures d'urgence et notamment par exemple un plan d'isolation massif des logements immédiat.
Mais ça ne sera pas fait pour l'hiver prochain.
Mais ça fait déjà un an qu'on attend et qu'on ne fait jamais rien. Mais oui, mais on repousse toujours l'échéance. On n'est pas capable de faire un effort de guerre qui consisterait à isoler massivement nos bâtiments. Pourquoi ? Pourquoi on attend toujours d'être au pied du mur ? Pourquoi on préfère construire un terminal méthanier plutôt que d'isoler les logements des plus précaires ? Là, on vient de passer un épisode caniculaire. Combien y avait-il d'enfants ? Combien y avait-il de familles dans ces appartements où il a fait jusqu'à 50 degrés ? Qui a pris soin de ces personnes ? Parce que c'est aussi de la qualité de vie que d'isoler un logement. Donc voilà, moi, vraiment, je n'en peux plus de ce déni politique autour de la situation. Il est criminel, il met nos enfants en immense danger et on fait comme si de rien n'était, parce qu'on préfère nos SUV et nos modes de vie à la vie de nos enfants. Franchement, ça n'est pas à la hauteur de la situation.
Est-ce que la renationalisation complète d'EDF lancée par le gouvernement est une bonne décision ?
Alors, ça n'est pas une renationalisation, c'est une recapitalisation.
Oui, c'est-à-dire qui reviendra sur l'État après 700%.
Oui, mais c'est avant tout une recapitalisation, ouais. C'est-à-dire remettre de l'argent au capital d'EDF. Pourquoi ? Pour notamment prolonger les centrales nucléaires. À ce jour, c'est quand même à ça que va servir cet argent. Oui, nous sommes pour la nationalisation d'EDF parce que nous pensons que nous devons avoir la main sur notre énergie. Par contre, pas sur le nucléaire.
Oui. Vous avez redit hier que vous souhaitiez qu'Éric Coquerel se mette en retrait de la présidence de la Commission des Finances de l'Assemblée. LFI ne veut pas en entendre parler. Est-ce que vous ne craignez pas de fracturer l'unité de la NUPES ?
La question, ça n'est pas, poser comme ça, c'est me mettre dans la situation d'être celle par qui le scandale arrive. Mais c'est pas moi. Je veux dire, là, moi, j'y suis pour rien, hein. Moi, la seule chose que je dis, c'est qu'il faut que la police fasse son travail. Et je pense que c'est quand même une position raisonnable. Donc voilà, je vous propose juste cette chose-là. C'est-à-dire que Éric Coquerel se mette en retrait de la Commission des Finances le temps de cette enquête de police. Ça va pas entamer sa présidence de la Commission des Finances. Ça permet par contre d'envoyer un signal aux femmes et c'est toujours important.
Merci Sandrine Rousseau. Bonne
Merci.
Journée.